There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Salut, ça va?
Hello, vous écoutez Salut, ça va? Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur techcare.co.
Bonne écoute! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va. Ça fait un petit moment que je voulais enregistrer cet épisode et je vous avoue que je suis un peu stressée à l'idée de le faire. C'est bien de le dire, on est là pour parler des émotions. Et c'est tout le travail que je fais en ce moment, c'est d'accepter les émotions telles qu'elles viennent et de ne pas en avoir honte. Donc je vous le dis, c'est un peu compliqué pour moi d'aborder ce sujet, mais je pense qu'il pourrait être utile pour beaucoup et aussi pour moi. Je pense que de poser des mots sur tout ça, c'est une manière d'aborder ces événements autrement, et j'ai eu le temps de prendre pas mal de recul dessus, donc je me sens prête à le faire. J'espère que cet épisode vous plaira. J'aimerais vraiment qu'on puisse échanger sur le sujet si jamais vous vous reconnaissez dans cette histoire et ce témoignage que j'ai envie de vous livrer aujourd'hui, toujours sur les réseaux sociaux de Take Care et les miens aussi par message, avec grand plaisir pour en discuter. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de trahison et de trahison amicale. C'était important pour moi de faire la différence, déjà parce que vous le savez, quand je fais des épisodes solo, l'idée c'est de vous parler d'une expérience ou d'un avis, d'une réflexion autour d'un sujet, et je n'ai pas vécu la trahison amoureuse, donc je me sens pas forcément en capacité d'en parler, même si je pense qu'il y a des facteurs communs et peut-être des éléments qui se retrouvent, hein, que ce soit amical ou amoureux. De toute façon c'est une relation, c'est un lien, c'est de la confiance, c'est de l'amour, donc il y a des similitudes qui sont évidentes, mais j'avais envie de vous parler aujourd'hui de la trahison amicale et de témoigner de ce que j'ai vécu, de ce qu'il en sort plusieurs années après, puisque ça date. Je pense que la première chose, c'est de ne pas réagir à chaud, justement, et j'aurais pas pu faire cet épisode juste après les événements, mais maintenant, je me sens capable. Donc voilà, je vais vous parler des choses qui m'ont permis de surmonter cette trahison amicale. L'idée, c'est pas de faire une story time et de vous parler exactement de ce qui s'est passé, parce que je trouvais pas ça forcément pertinent et que c'est une part de ma vie privée, mais en tout cas, c'est important pour moi de vous expliquer comment, quel process permet de surmonter cette trahison, et surtout de réinvestir les autres relations avec moins de méfiance et d'impréhension, parce que c'est ça la particularité, je trouve, c'est quand on a une trahison amicale, on a l'impression qu'on perd un peu foi, en tout cas c'était mon ressenti, de perdre un peu confiance en mes relations et de ne pas généraliser, quoi, sur le fait que c'est pas parce qu'on vit ça avec une personne que toutes les personnes et toutes les relations vont se dérouler de la même façon, et de prendre du recul par rapport à un événement qui ne définit pas tous les autres événements de votre vie. Et c'est valable autant pour les relations amicales que les relations amoureuses. Quand on a été trahi ou quand on a vécu quelque chose qui s'apparente à un traumatisme, on peut avoir tendance à le calquer et à se dire que c'est comme ça que les choses se passent, et on apprend à notre cerveau un peu à réagir de manière méfiante et à ne plus faire forcément confiance, ou à être tout le temps dans une certaine forme de distance par peur d'être blessé à nouveau. Et l'idée, c'était de ne pas s'enfermer là-dedans. C'était toute la difficulté pour moi, parce que j'ai eu autour de moi des personnes qui m'ont dit « Mais oui, mais en même temps, t'es trop gentil, mais en même temps, tu te donnes trop, tu te méfies pas assez, etc. » Chose qui, à mon sens, est quand même fausse, parce que j'ai un schéma de méfiance très très élevé, et j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un prochain épisode. Mais j'avais pas envie de changer ma façon d'être et ma façon de faire après ces événements-là, et j'avais pas envie de me couper de toutes mes relations sous prétexte que j'avais été trahie, et peut-être que je serai trahie à nouveau, et peut-être que ça se terminera mal à nouveau. C'est pas grave, quelque part, le jeu en vaut la chandelle, et tous les bons moments que je passe avec mes amis, j'ai certainement pas envie d'avoir une petite voix au fond de ma tête qui me dit ouais, mais attention, parce que là tu crois que tu passes un bon moment, mais peut-être qu'à tout moment ça peut s'arrêter, et à tout moment tu peux avoir mal, et à tout moment tu peux être trahi, à tout moment on peut te mentir, etc. Je pense que ce serait terrible, parce que je serais dans l'incapacité de profiter de l'instant et de la joie qu'apportent ces moments. Donc voilà, ça c'était une première réflexion importante, et je sais que ça peut être difficile, et d'ailleurs, bon, comme comme toujours, vous le savez, on le répète assez ici, mais si jamais ça devient trop envahissant au point où un événement conditionne toutes vos relations et vous sentez que finalement vous êtes dans une telle méfiance que les liens que vous tissez par ailleurs sont fragiles et sont entachés par justement cette amertume, cette peur, cette angoisse, cette anxiété, etc. N'hésitez pas à vous faire aider pour surmonter et pour restructurer les pensées qui sont associées justement à ces événements et à ces relations et qui vous trigger quelque part, que ce soit une relation amicale, que ce soit une nouvelle personne que vous rencontrez, une discussion, un événement, etc. Ça peut être vraiment utile dans ces cas-là. Donc voilà, on ne le dira jamais assez ici. N'hésitez pas à demander de l'aide quand c'est nécessaire. Ok, bon, j'ai pris quelques notes. Vous savez qu'en ce moment, j'aime bien structurer un peu les podcasts. Sinon, j'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Et vous avez l'air d'apprécier ce format-là. Donc c'est parfait, on est en accord. J'ai noté les petites choses qui m'ont aidé dans ce process de reconstruction. C'est vrai que personnellement, quand j'ai vécu cette trahison, j'ai eu une phase de choc, vraiment de choc intense, où j'ai eu 24 heures à ne plus pouvoir quitter mon lit, à ne plus pouvoir m'alimenter, à être vraiment dans un état de choc et je dirais même de dégoût en fait. Mon corps était dégoûté, j'avais la nausée, je vous passe les détails, mais vraiment mon corps physiquement a rejeté ce qui était en train de se passer. Alors ça n'a pas duré trop longtemps et j'ai pu par la suite reprendre ma vie entre guillemets, mais si ça dure trop longtemps, bien sûr il faut demander de l'aide parce que c'est pas un état qui est bon sur le long terme. Je suis passée par cette phase de choc parce que c'est choquant en fait. J'avais vraiment cette impression de m'être pris un bus de 3 tonnes dans la tête. J'ai vraiment ressenti de la douleur. Mon corps a vraiment subi, et pourtant on pourrait se dire que on ne le vit qu'émotionnellement, mais on le sait aujourd'hui et on le répète souvent ici, les émotions induisent des comportements et des sensations physiques qu'on peut repérer plus ou moins facilement, mais qui nous aident justement à comprendre ce qui se passe en nous. Et là, profondément, ce n'était pas une émotion que j'avais l'habitude de rencontrer, en tout cas pas avec cette intensité, parce que j'ai vraiment senti de la douleur, de la nausée, vraiment un rejet, un choc quoi. J'étais vraiment sous le choc, j'étais dégoûtée, c'était vraiment l'émotion du dégoût mais intense. Et j'ai dû vraiment me reposer, prendre du recul par rapport à ça, accepter d'être au lit pendant 24 heures, de ne pas avoir envie de manger, d'avoir vraiment des sensations physiques désagréables, et j'ai compris que c'était tout simplement une période de stupéfaction. Enfin voilà, vraiment j'étais freeze quoi, j'étais vraiment sous le choc d'apprendre en fait certaines choses. Et c'est ce qui distingue pour moi l'événement d'autres relations qui auraient pu petit à petit se perdre ou être de moins en moins intense, etc. Là c'était vraiment le côté soudain, inattendu, fort, c'est-à-dire vraiment entre ce que vous imaginez que la relation est et ce que vous apprenez, il y a vraiment ce gouffre qui est choquant quoi, enfin qui a vraiment été intensément vécu, parce que je me suis sentie vraiment trahie, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, je n'aurais pas pu l'imaginer. C'est ce qui vraiment a pour moi appuyé le côté trahison, c'est vraiment ce gap entre ce que j'imaginais de la relation et ce que j'ai appris. Et le gap entre ce que je vivais, c'est-à-dire la façon dont on se parlait, la façon dont on était complice, cette amitié profonde, cette confiance et ce que j'apprends malgré moi, c'est-à-dire que je tombe sur quelque chose au même titre que dans une relation amoureuse, vous allez tomber sur des messages avec une personne extérieure à votre couple, vous allez surprendre quelqu'un en train de faire quelque chose. Là vraiment il y a cet effet de surprise en fait qui caractérise cette trahison en fait, et qui justement je pense a accentué cet effet de choc. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc les premiers temps vraiment j'étais en choc et j'ai accepté cet état parce que je savais qu'il était passager, ça n'a pas duré des semaines, loin de là, ça a duré 24-48 heures, et ensuite je me suis dit bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et justement la première chose que j'ai notée, c'est le fait de prendre le temps de ressentir les émotions qui nous traversent, c'est-à-dire que cette intensité-là, je ne l'avais jamais vécue de cette façon, en tout cas pas dans ce dégoût. C'est vrai que c'est pas forcément une émotion que vous rencontrez aussi facilement, je trouve, que la joie, la tristesse, la peur, et pourtant c'est une émotion qui fait partie des émotions courantes, hein, du dégoût quoi, vraiment d'être dégoûté, d'être quelque part un peu révolté, ça peut s'apparenter aussi à de la colère, enfin il y avait un mélange de beaucoup de choses, mais il y avait ce dégoût intense et je l'ai accueilli quoi, vraiment. De toute façon je n'avais presque pas le choix, c'était malgré moi, mon corps était dans un état vraiment comme malade quoi, vraiment en rejet de ce qui venait de se passer et douloureux. Donc il y a eu vraiment cette part de d'incompréhension, de je ne comprends pas, de pourquoi moi, de mais qu'est-ce que j'ai fait, mais il y a la culpabilité aussi, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Et je pense que cet effet de surprise accentue le gloubi-boulga, le gribouillis d'émotions qui se passent en nous. J'ai essayé de faire en sorte de ne pas juger ce qui était en train de m'arriver, de ne pas essayer d'être dans la compréhension tout de suite, mais d'être simplement dans le fait d'accueillir ce qui était en train de se passer. Et de toute façon, je vais vous le dire honnêtement, je n'avais pas le choix. Ça m'est tombé dessus, et c'est un petit peu la particularité à mon sens de la trahison, c'est que vous êtes devant le fait accompli, vous êtes confronté à quelque chose et à une émotion qui est très forte, quelle qu'elle soit. Moi, ça a été le dégoût et la colère, mais vous, ça peut être la tristesse intense, ça peut être vraiment la stupéfaction, la peur, peu importe la façon dont on le vit, mais c'est une intensité qui n'est pas commune, parce qu'il y a cet effet de surprise. Et donc, pendant ces quelques heures, je pense 24-48 heures de ce que je me souviens, j'ai vraiment eu ce truc de ça se mélange en moi, c'est vraiment un gros gribouillis, quoi. Et j'essaye pas de comprendre et de tirer chaque ficelle, ça viendra dans un second temps. Simplement, j'accepte d'être choquée, j'accepte que ce soit intense, et je ne me juge pas. Et j'essaye d'être dans l'accueil de ce qui se passe, aussi bizarre et aussi intense soit-il, parce qu'encore une fois, personnellement, j'avais pas vécu d'émotion, de dégoût comme ça aussi forte depuis très longtemps, et je pense que c'est ce qui a accentué les ressentis à ce moment-là. J'ai essayé de ne pas m'isoler, c'est tentant pour les personnes qui, comme moi, ont tendance à se dire qu'on gère tout seul et qu'on vit mieux nos émotions tout seul et qu'on est en capacité de gérer. Or non, on a besoin des autres, et c'est ok d'avoir besoin des autres, c'est ok d'avoir besoin de soutien, surtout dans ces moments-là. J'ai essayé de ne pas m'isoler, j'ai essayé d'en parler à des personnes de confiance, même sans parler en fait, parce qu'au début j'étais même pas en capacité de parler, mais juste de vivre l'émotion avec des personnes ressources qui pouvaient être là pour moi comme j'avais envie qu'elles soient, à savoir parfois d'un câlin, parfois de parler, parfois de ne rien dire, parfois juste de partager un repas, parfois d'être présent. Je me souviens qu'au début j'avais du mal à sortir de mon lit, et je me souviens d'une scène où Samuel était assis dans la salle de bain pendant que je prenais ma douche, et cette présence là était vraiment bénéfique à ce moment-là, et il n'y avait pas de mots nécessaires, simplement juste cette présence et de ne pas m'isoler, parce que c'est tellement tentant justement de s'isoler par peur et par envie de se dire finalement personne ne mérite ma confiance, personne ne mérite mon amitié, personne ne mérite mon amour, j'ai été trahi, je serai trahi toute ma vie. Et vous avez ces pensées comme ça qui sont un peu intrusives, même carrément intrusives, et qui viennent en apparence en protection de ce que vous êtes en train de vivre, mais en réalité qui peuvent vous écarter d'une possibilité de vous reconstruire, et surtout d'être apaisé à l'aide d'autres ressources, puisque quand on est trahi, quand on vit une trahison dans une relation, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a autour et tous les autres piliers de votre vie vont vous trahir ou sont défaillants, au contraire. Donc c'est dans ces moments-là où il faut pouvoir se reposer sur ça, et je pense que ça a été bénéfique, et ça m'a permis justement de me relever plus vite, d'avoir cet entourage proche, d'avoir ces piliers, ces ressources, et donc ne pas s'isoler. Je pense que c'est hyper important de toute façon dans les moments hyper difficiles comme ça, même si on a tendance à vouloir se recroqueviller et à se renfermer, la présence des autres peut être bénéfique, peu importe la forme.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ça prend. La chose qui a été la plus difficile pour moi, ça a été de m'empêcher quelque part de trop penser à ce qui s'était passé, dans le sens où je voulais essayer de comprendre. Et sauf que il y a quelque chose qui est assez incompréhensible, et surtout qui ne peut pas être maîtrisé dans une relation à deux. C'est ce que pense l'autre, c'est comment les choses ont été interprétées par l'autre, c'est pourquoi est-ce que la relation en est arrivée à ce point de rupture et de trahison. Et tous ces éléments-là, vous ne pouvez que les interpréter. Et du coup, ça crée des ruminations qui sont un peu sans fin. Parce que dans un premier temps, quand vous n'avez pas forcément de discussion avec la personne avec qui vous avez vécu cette trahison, trahison, vous êtes dans des suppositions qui sont infinies. Pourquoi la personne a fait ça? Pourquoi elle a ressenti ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Depuis quand ça dure? Et est-ce que ces moments-là où ça me paraissait sincère, est-ce qu'elle était vraiment sincère? Et là, en fait, on tombe dans une rumination qui est hyper intense, qui est sans fin, qui est anxiogène. Et ça a été très difficile pour moi de ne pas aller chercher justement des réponses à des questions. Dans un premier temps, j'entends, parce que c'est hyper important quand vous avez la possibilité d'en discuter et justement d'éclaircir ces points-là et de ne pas être dans des hypothèses qui n'ont pas de réponse. Mais justement, c'est dans la discussion et ce n'est pas entre vous et vous-même. Et toute la différence est là. Parce que quand vous êtes dans une rumination d'hypothèses et de pourquoi la personne a fait ça, pourquoi moi, pourquoi, ces questions n'ont pas de réponse. En tout cas, elles ont des réponses qui sont infinies, qui sont des hypothèses et qui ne sont pas des faits. En fait, c'est tout simplement vos émotions qui parlent, c'est vos interprétations, c'est vos pensées, etc. Mais vous n'avez pas la réponse de la personne concernée. Donc vous pouvez supposer pendant des heures, des jours, des mois, des années, et d'ailleurs c'est très souvent ce qui se passe dans les conflits de famille, hein, c'est des non-dits, et donc chacun interprète, chacun colporte des dires et des rumeurs, et on se retrouve avec une rupture de la communication, et au final personne ne se parle, personne ne se comprend, et très souvent il y a beaucoup de choses qui sont apaisables, ce n'est pas du tout français, mais qui peuvent être apaisées, c'est ça que je voulais dire, par la discussion et par le fait d'accepter, en fait, de poser des questions et d'avoir des réponses à ces hypothèses qui jusqu'alors n'en avaient pas ou en avaient tellement qu'en fait c'était tout simplement contre-productif. Donc ne pas être dans cette rumination intense avant d'avoir la possibilité de discuter avec la personne concernée et de poser vos questions pour valider ou non ces hypothèses-là. Je sais que c'est très difficile et c'est même naturel quand il arrive quelque chose d'avoir ces pensées intrusives, mais de pouvoir avoir cette restructuration qui consiste à se dire bon, je peux noter même toutes ces questions qui me passent par la tête pour pouvoir être en capacité, si j'ai envie d'être confrontée, si j'ai envie d'avoir des réponses concrètes à mes questions, de me confronter à la personne et de voir ce qu'elle est en capacité de dire. Par contre, ce qui est le plus difficile à gérer, c'est que c'est pas parce que vous avez des questions, c'est pas parce que vous engagez une discussion que les réponses vont vous convenir. C'est important de se le dire aussi parce qu'on peut être déçu souvent de discussions et de se dire que les choses ne vont pas dans le sens que vous avez forcément imaginé. Et puis quand on est confronté à la personne qui nous a trahi, on a une remontée d'émotions qui est tellement intense que parfois c'est difficile d'avoir de la clarté et cette vision de toutes les questions qui tournent dans votre tête depuis des jours. Donc vraiment, c'est tout le travail de lâcher prise que vous ne pouvez pas maîtriser, à savoir la personne qui est en face de vous, vous ne pouvez pas maîtriser elle, ses propres biais, elle, ses propres émotions, la façon dont elle a interprété les choses, etc., etc. Donc vous pouvez avoir ces questions, les écrire, je trouve que ça permet, et moi c'est ce que j'avais fait, d'avoir une trame et surtout pas de regrets de choses que vous auriez aimé éclaircir, mais vous pouvez pas maîtriser les réponses qui vont vous être données en face aussi. Cette acceptation, à mon sens, elle permet de ne pas ressentir encore plus de frustration et de déception. Bien sûr, vous en aurez, parce que c'est rare qu'on trouve, surtout sous le coup de l'émotion, de la colère, de la trahison, de la tristesse, les mots complètement rassurants et justes, parce qu'il y a cette amertume qui fait que la trahison et la blessure, elle a été faite. Donc, peu importe ce que l'autre va vous dire, il y aura ce fond d'amertume, de tristesse, de peu importe l'émotion que vous ressentez à ce moment-là. Mais ne pas être dans la frustration de ne pas l'avoir fait et de ne pas avoir tenté. Parce que finalement, même si la réponse ne vous correspond pas forcément, ne correspond pas à ce que vous attendiez, ne correspond pas à la façon dont vous vous étiez imaginé la discussion, et bien quelque part, vous n'aurez pas la frustration de ne pas l'avoir fait. Donc ça peut être un moyen d'éviter justement de ruminer sans fin sur des hypothèses, et en attendant d'avoir cette discussion et d'avoir la possibilité de clarifier ce qui s'est passé, et bien d'avoir un échappatoire, et l'écriture peut être hyper intéressante dans ces moments-là, de noter tout ce qui vous vient par la tête et tout ce qui peut mériter quelque part pour vous des réponses et des éclaircissements sur ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé justement. Qui dit émotion dit forcément réaction à chaud, et ce qui a été important pour moi, c'est de ne pas prendre des décisions de façon impulsive. C'est très tentant quand vous faites face à la trahison de prendre des décisions de manière très impulsive parce que vous êtes submergé par une émotion qui est intense. Pour ma part, c'était le dégoût, c'était la colère, c'était la tristesse, il y avait un mélange, un gloubi-boulga d'émotions qui était très difficile à cerner pour moi parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une émotion aussi intense. Et pour autant, j'ai eu la chance à ce moment-là d'être en coaching avec Roger à l'époque, qui était mon coach mindset et vraiment sur le côté business, entrepreneurial, etc. C'est arrivé à ce moment-là et forcément c'est des discussions du coup qu'on a eues ensemble, et il m'a aidé à prendre du recul et à me dire ne prends pas de décision de façon impulsive parce que là tu es guidé par tes émotions. émotions et tu n'es pas guidé du tout par ta raison et les émotions sont parfois des terribles guides, surtout dans les moments où c'est intense, où vous êtes submergé, que vous n'arrivez pas forcément à distinguer ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la stupéfaction, de la peur, peu importe, quand c'est intense et que vous êtes confronté à quelque part un effet de choc, vous avez ces émotions qui guident vos décisions et qui ne sont pas forcément des bons guides. Donc l'idée c'était d'attendre un petit peu de pouvoir calmer ces émotions pour ensuite agir et prendre des décisions, mettre en place des choses, passer à l'action, etc. Donc j'ai vraiment eu ce besoin de recul et donc ça m'a pris 15 jours il me semble, 15 jours où forcément ce n'est pas facile, hein, ça tourne dans votre tête, on ne peut pas non plus empêcher les ruminations à ce moment-là, on peut les apaiser de beaucoup de façons, mais c'est vrai que petit à petit je sentais qu'avec les jours qui passaient, l'intensité émotionnelle diminuait et j'avais davantage de clarté par rapport aux décisions que je devais prendre pour la relation et pour plein d'autres choses annexes, surtout quand vous avez une personne et une relation qui implique plusieurs domaines de votre vie. Ce temps-là, il est précieux, hein, cette prise de recul pour ne pas être dans le regret aussi de décisions hâtives. Donc calmer le côté émotionnel, laisser un peu de temps passer pour ensuite prendre des décisions et vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de prendre des décisions et de revenir dessus, vous avez le droit d'être dans une flexibilité bien sûr. Mais je pense que l'intensité émotionnelle, quand on vient de vivre une trahison ou un trauma ou quelque chose qui vous heurte de façon intense, elle ne permet pas forcément de prendre des décisions éclairées. Donc voilà, avoir ça en tête dans ces moments-là, je trouve que ça peut aider pour la suite et pour pas avoir à se retourner sur ce qui s'est passé, à se dire « Ah, je suis pas sûre que maintenant je suis en total accord avec ce qui se passe ». On va parler positif et du fait d'aller mieux. Quand on vit une trahison, je trouve que c'est difficile de se sortir de cette spirale de pensée justement, et de pensée intrusive et de rumination et d'hypothèses qui n'ont pas de fin. Et ce qui m'a aidé à ce moment-là, ça a été de me concentrer sur ce qui me faisait du bien, sur des activités qui me faisaient du bien. C'est pas forcément des trucs incroyables, mais c'est de concentrer mon attention, mon énergie sur d'autres choses qui n'ont pas rapport avec ce qui est en train de se passer et qui me permettent petit à petit de créer de l'espace mental un peu plus aéré, joyeux, et qui me ramène à ce qui me fait du bien, en accord avec mes valeurs, parce que on est souvent un peu heurté dans ces moments-là. J'ai un peu l'image du petit oiseau blessé et on a envie naturellement de s'isoler, d'être dans quelque chose d'un peu craintif, et j'aurais facilement pu me mettre sous une couette avec du chocolat pendant des semaines. Et je vous avoue que ces petites activités que j'ai recommencé à mettre en place à ce moment-là, je me souviens que je faisais un peu de yoga, que ça m'arrivait de faire de la peinture, etc., ça m'a permis de m'obliger à me créer des moments pour moi en dehors de ce que j'étais en train de vivre. Et dans tous les cas, dans les moments comme ça difficiles, se recentrer sur des activités qui nous font du bien, sur des personnes qui nous font du bien, c'est pas forcément des trucs incroyables, ça peut même être 5 minutes de marche dans la nature, peu importe, mais juste de créer des moments de votre journée où vous savez que vous allez mettre de l'attention là où vous avez envie, là où ça vous apporte de la joie, et que ça puisse aussi déclencher d'autres émotions agréables. Voilà, non pas qu'elles soient meilleures que les émotions désagréables, mais c'est toujours plaisant dans les moments difficiles d'apporter un petit peu de légèreté, et ça vous permet, je trouve, moi ça m'a permis d'avoir un peu plus de clarté justement dans mes décisions et d'apaiser en fait l'intensité émotionnelle de ce qui se passait en moi de désagréable, de se concentrer sur voilà des petites choses du quotidien, des petites activités qui nous font un peu défocus quoi, voilà, décentraliser, je ne sais pas comment on peut dire, je perds mes mots aujourd'hui, mais je pense que vous comprenez l'idée. Et enfin, je crois que je terminerai sur la culpabilité, le fait de justement être patient avec soi-même, de ne pas se sentir coupable de ressentir ce que vous êtes en train de ressentir. L'amour qu'on ressent dans une relation, c'est pas parce qu'il y a une trahison que du jour au lendemain vous n'allez plus aimer cette personne, que vous n'allez plus chérir cette relation, que ça ne va pas vous manquer d'une certaine façon. Et honnêtement, moi des années après, ça me manque, il y a beaucoup de choses qui me manquent, même s'il y a eu cette cassure, et personnellement j'ai fait le choix de ne pas donner de seconde chance à cette relation, mais ça n'en reste pas moins une relation qui a vécu des moments de joie, qui a vécu des moments d'amour, et je ne me juge pas de ressentir ce que je ressens à propos de ce lien qui a été heureux, qui a vécu des bons moments, qui a été dans la joie. J'essaye de faire en sorte que la trahison ne définisse pas tout. J'ai tendance personnellement à être un peu dans le tout blanc, tout noir, et en réalité avec le temps et avec ce travail justement émotionnel, je nuance les événements même les plus difficiles pour y apporter un peu de gris dans ce noir et blanc, voilà, parce que on peut être difficile avec soi soi-même et avoir des pensées un petit peu culpabilisantes en se disant mais pourquoi t'as accepté que cette personne rentre dans ta vie, comment t'as pas pu le voir, ou alors de la culpabilité de se dire peut-être que c'était ta faute, tu n'as pas fait les choses bien, tu aurais pu éviter ce qui s'est passé, etc. Et donc cette indulgence, cette patience et cette façon de juste se prendre dans les bras nous-mêmes et de se dire écoute, les choses sont faites, tu ne peux pas revenir sur le passé, la seule chose que tu peux faire c'est l'instant, c'est le présent, c'est maintenant, comment toi t'as décidé de vivre ce qui est en train de se passer, tout ce dont je vous ai parlé tout au long de cet épisode, et d'investir des relations qui te font du bien. Et ça veut pas dire que tu seras jamais déçu, ça veut pas dire que tu ne vas jamais plus revivre de la tristesse, de la colère, etc. Cette trahison ne doit pas te définir, et sois patiente avec toi-même, ça va aller. Et voilà, j'avais aussi envie de vous donner ce petit mot d'espoir si vous traversez une période difficile. Ce n'est jamais permanent, voilà, tout passe, vraiment, et le temps est aussi votre meilleur allié dans ces moments-là. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'étais contente de le faire, fait du bien, et vous voyez, j'étais stressée au début, et maintenant je suis plutôt apaisée, je suis contente de ce qui s'est dit aujourd'hui. J'espère encore une fois que ça pourra apporter peut-être des clés, des réflexions sur ces sujets, j'ai hâte d'en discuter avec vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé, ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.